Rapport de l'État et du droit à la propriété. Dans le monde antique, comme au Moyen-Âge, la première forme de la propriété, c'est la propriété tribale. Chez les Romains, elle est principalement l'effet de la guerre. Chez les Germains, elle dépend de l'élevage. Étant donné que chez les peuples antiques, plusieurs tribus cohabitent dans une même ville, la propriété tribale apparaît comme propriété d'État. Le droit de l'individu y étant la simple possession, qui, toutefois, se limite comme la propriété tribale en général à la seule propriété foncière. La propriété privée, proprement dite, commence chez les anciens, comme chez les peuples modernes, avec la propriété mobilière. Chez les peuples qui sortent du Moyen-Âge, la propriété tribale se développe ainsi à travers différentes phases. Propriété foncière féodale, propriété mobilière corporative, capital des manufactures, jusqu'au capital moderne, qui dépend de la grande industrie et de la concurrence universelle. C'est la propriété privée à l'état pur, qui a dépouillé toute apparence de communauté et qui a éliminé toute influence de l'État sur la constitution de la propriété. C'est à cette propriété privée moderne que correspond l'État moderne, dont les propriétaires privés ont fait peu à peu l'achat au moyen des impôts, qui leur est dévolu complètement grâce au système des dettes publiques et dont l'existence dépend désormais entièrement, par le jeu de la hausse et de la baisse des valeurs d'État à la bourse, du crédit commercial que les propriétaires privés, les bourgeois, lui accordent. Le seul fait qu'elle soit une classe et non pas un ordre contraint la bourgeoisie à s'organiser à l'échelle non plus locale mais nationale, et à donner une forme générale à ses intérêts communs réduite à la moyenne. La propriété privée s'étant libérée de la communauté, l'État a acquis une existence particulière, à côté et en dehors de la société civile. Mais il n'est rien de plus que la forme de l'organisation que les bourgeois sont forcés de se donner, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour garantir mutuellement leurs propriétés et leurs intérêts. À notre époque, l'autonomie de l'État ne subsiste que dans les pays où les ordres ne sont pas encore entièrement transformés en classes et où, après avoir été éliminés dans les pays les plus avancés, ils continuent à jouer un rôle et où tout s'entremêle. Par conséquent, dans les pays où aucune partie de la population ne peut assurer sa domination sur les autres. C'est en particulier le cas en Allemagne. Le modèle achevé de l'État moderne, c'est l'Amérique du Nord. Des auteurs récents, français, anglais et américains, soutiennent tous que l'État existe uniquement en vue de la propriété privée, si bien que cette thèse est même passée dans la conscience de tout le monde. Étant donné que l'État est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs, la forme dans laquelle l'ensemble de la société civile d'une époque se résume, il s'ensuit que toutes les institutions communes sont médiatisées par l'État, reçoivent une forme politique. D'où l'illusion que la loi repose sur la volonté, plus exactement sur la volonté libre, détachée de sa base réelle. De même alors, le droit est réduit de nouveau à la loi. Le droit privé et la propriété privée se développent simultanément grâce à la dissolution de la communauté primitive. Le mode de production des Romains étant resté le même, la constitution de la propriété privée et du droit privé n'entraîna chez eux aucune autre conséquence industrielle ni commerciale. Chez les peuples modernes, la dissolution de la communauté féodale par l'industrie et le négoce marqua, avec la naissance de la propriété privée et du droit privé, une phase nouvelle qui annonçait de nouveaux progrès. Ainsi, la ville d'Amalfi, qui fut la première à amener un commerce étendu sur mer, fut aussi la première à perfectionner le droit maritime. En Italie d'abord, et plus tard dans d'autres pays, dès que l'industrie et le commerce eurent donné un nouvel essor à la propriété privée, le droit privé romain, déjà perfectionné, fut aussitôt repris et élevé à l'autorité. Plus tard, quand la bourgeoisie eut acquis assez de puissance pour amener les princes à se charger de ses intérêts, afin de renverser, avec l'aide de la bourgeoisie, la noblesse féodale, la véritable constitution du droit commença partout. Entre parenthèses, en France, au XVIe siècle. Laquelle s'accomplit dans tous les pays, à l'exception de l'Angleterre, sur la base du code romain. En Angleterre aussi, il fallut adopter certains principes du droit romain pour perfectionner encore le droit privé, surtout en matière de propriété mobilière. Note de bas de page, ne pas oublier que le droit, pas plus que la religion, ne possède une histoire qui lui soit propre. Fin de la note de bas de page. Dans le droit privé, les rapports de propriété existants sont définis comme résultat de la volonté générale. Le droit d'usage sans restriction exprime, d'une part, le fait que la propriété privée est devenue tout à fait indépendante de la communauté, et, d'autre part, l'illusion que la propriété privée elle-même repose sur la seule volonté privée, sur le droit de disposer tout à fait librement de l'objet. Dans la pratique, l'abus a des limites économiques bien précises pour le propriétaire privé, pour peu qu'il ne veuille pas voir sa propriété, et avec elle son droit d'abuser, passer dans d'autres mains. Car enfin, l'objet, considéré simplement par rapport à sa volonté, n'est même pas un objet, mais ne devient objet, une propriété réelle, que dans le commerce, et indépendamment du droit. Ouvrez la parenthèse. Un rapport que les philosophes appellent une idée. Pour les philosophes, le rapport est une idée. Ils ne connaissent que le rapport de l'homme avec un grand H à lui-même. Et c'est la raison pour laquelle toutes les relations réelles deviennent pour eux des idées. Fermez la parenthèse. Au cours de la constitution ultérieure des rapports de propriété, cette illusion juridique, qui réduit le droit à la seule volonté, aboutit nécessairement à ce résultat que quelqu'un peut avoir un titre juridique à une chose sans avoir réellement la chose. Si, par exemple, la rente d'un bien-fonds se trouve supprimée par la concurrence, le propriétaire conserve bien son titre juridique, le droit d'usage y compris. Mais il ne peut rien en faire. Il ne possède rien en tant que propriétaire foncier, à moins de posséder en outre suffisamment de capital pour exploiter sa terre. Cette même illusion des juristes explique que, pour eux, comme pour tout code juridique, le fait que des individus entrent en relation les uns avec les autres, par exemple dans des contrats, est purement accidentel, et que ces rapports passent pour être de ceux auxquels on peut à volonté souscrire ou ne pas souscrire, et dont le contenu repose entièrement sur le caprice individuel des parties contractantes. Toutes les fois que le développement de l'industrie et des échanges a produit de nouvelles formes de commerce, par exemple des compagnies d'assurance, etc., le droit s'est trouvé dans la nécessité de les admettre parmi les modes d'acquisition de la propriété.